La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Aujourd'hui, Appel sur l'actualité est à Ouagadougou. Juan Gomez.
Et nous sommes de retour à Ouagadougou pour un débat sans langue de bois ce matin entre les étudiants venus très nombreux dans cet amphithéâtre de l'université Ouagadougou et deux représentants de la classe politique, Rémi Fulgence Danjinou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et Achille Tapsoba, premier vice-président du CDP, le CDP, l'ex-parti au pouvoir. Ce matin, nous dressons un état des lieux de la situation au Burkina Faso. Nous avons longuement parlé de la situation sécuritaire tout au long de la première partie. On a également évoqué la question des tensions intercommunautaires. Les étudiants, messieurs, souhaitent également vous interpeller sur d'autres sujets et notamment sur la justice. Bonjour Damas.
Bonjour.
26 ans.
Oui.
Vous êtes en licence 1, sciences politiques et juridiques.
Oui.
Je sais quasiment tout sur vous.
Okay.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, Juan Gomez, moi je voulais parler de justice comme vous l'aviez bien annoncé. Monsieur le ministre, je veux parler de justice parce que la justice est la base d'une nation. Et aucune nation ne peut s'émanciper sur des bases inégales. Monsieur le ministre, en novembre 2014, le peuple burkinabé, qui s'est senti frustré, tortionné, torturé pendant 27 ans, est sorti avec bravoure, payé au prix des vies humaines, revendiquer la justice. On a cru désespérément qu'après l'insurrection de 2014, une certaine justice allait s'instaurer, une certaine égalité allait s'instaurer entre nous Burkinabés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et après des tueries, après qu'on a payé de nos vies en 2014, il a fallu encore que le peuple ressorte sur les réseaux sociaux, qu'on dise non, il faut ouvrir un certain dossier en justice et... Ce qui a donné lieu à l'ouverture du procès du coup d'État.
Oui,
le coup d'État qui est venu en 2015, oui. Alors que l'insurrection s'est passée en 2014.
Simplement, pour qu'on comprenne bien en quelques mots et simplement, que reprochez-vous sur cet aspect judiciaire? Que reprochez-vous au gouvernement?
Nous reprochons
une lenteur
de la justice et une inaction gouvernementale.
Oui, alors le temps de la justice, monsieur le ministre, forcément, ce n'est pas le temps... du citoyen. Le citoyen voudrait que la justice aille plus vite. Mais en même temps, que pouvez-vous argumenter pour rassurer ce jeune?
Non, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que nous avons tous envie de voir la justice. Vous, comme moi, sommes sortis en novembre 2014. Vous, comme moi, sommes sortis pour résister au coup d'État. Donc nous avons vu également des Burkinabés tomber. Mais je voudrais que vous vous souveniez d'une chose. C'est qu'en 2015, lorsque nous avons la transition, nous avons décidé de faire un ensemble de Burkinabés autour d'une table pour définir la justice comme élément de refondation nationale. C'est un pacte que nous avons mis en œuvre. Et ce pacte-là fait aujourd'hui, par exemple, vous êtes étudiant en droit, quasiment aucun pays du monde en voit ça. Pour être président de juridiction au Burkina, c'est un appel à candidature. Donc il faut que vous compreniez que nous sommes allés très loin dans la liberté de la justice. Aujourd'hui, elle doit s'assumer. En ce qui concerne le procès de l'insurrection... Il faut savoir que ça touche notamment des ministres, en partie, ceux qui ont voté la position le gouvernement qui a accepté d'aller à l'Assemblée nationale. Et ce gouvernement-là, il peut être jugé par la Haute Cour de justice. Le reproche a été fait à la Haute Cour de justice qu'elle était à un seul niveau. Vous êtes juriste, il faut un appel. Nous avons donc relu les textes. Maintenant, il faut être honnête. On ne peut pas avoir deux procès comme ceux que nous avons en même temps. Pour des questions sécuritaires, ça paraît évident. Donc je vous demande, sur cette question-là, de laisser ce procès-là fini. Il est quasiment à son terme.
Voilà.
Vous pouvez voir que très bientôt, le procès sur le gouvernement qui est acteur de cette volonté de modifier l'article 37 se met en place.
Alors,
mais la justice a son temps, qui n'est pas le nôtre, et nous devons accepter de la suivre.
Et il y a eu quand même, depuis la fin de la transition, deux dossiers qui ont été remis sur la table, et pas les moindres, celui de Thomas Sankara et celui de Norbert Zongo. Achille Tapsoba, sur la justice, monsieur le ministre nous disait qu'elle était aujourd'hui totalement indépendante. L'était-elle à votre époque, la justice indépendante?
La justice souffre aujourd'hui des mêmes insuffisances qu'elle souffrait à notre époque. C'est une question d'honnêteté. Elle a des problèmes de corruption, elle a des problèmes de transparence, elle a des problèmes d'équité, comme à notre époque. C'est clair, je ne fais pas de distinguo. Donc, c'est une question de responsabilité. Alors, la question de la justice et la vitesse dont parle l'étudiant, je crois que 2014 est bien antérieur à 2015. Alors, si on peut enrôler le procès de 2015 avant 2014, c'est qu'il y a forcément des problèmes. Effectivement, c'est un problème de contrat entre le régime en place et le peuple. Et il était entendu, à l'avènement du régime en place, que tous les dossiers seraient instruits et dans la plus grande célérité, dans la plus grande diligence. Force est de constater que c'est dans le plus grand piétinement que nous assistons à cette avancée des affaires judiciaires.
Monsieur le ministre, vous avez écouté, il vous répond très vite et on redonne la parole aux étudiants car c'est le...
Non, je voudrais juste faire remarquer que nous, depuis 2016, il n'y a pas de juge qui se dise acquis. Et deuxièmement, dans l'histoire du Burkina, remontez, vous êtes étudiant, il n'y a pas de décision de justice contre l'État. Au Burkina, depuis 2016, nous avons posé des actes en tant que gouvernant. La justice a dit c'est pas bon, retirez les actes. Donc nous avons une justice qui fonctionne dans notre pays, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2016.
Alors, on va pas le faire. Alors, vous allez contester.
C'est une question de responsabilité, Yohann.
Allez-y, allez-y.
Je voulais dire seulement que c'est une contre-vérité de dire qu'aujourd'hui, la justice est autonome, indépendante et tout ce qu'on... Bien. Il y a un problème.
Vous ne serez jamais d'accord.
L'indépendance de la justice.
S'il vous plaît, voilà. Vous ne serez jamais d'accord sur ce sujet-là. Qui avons-nous ? Marc est avec nous au premier rang, 29 ans. Bonjour Marc.
Bonjour Yohann Gomez.
Alors, vous êtes venu nous voir pour interpeller nos invités et vous nous disiez, j'ai peur de terminer mes études.
Bien entendu, j'ai peur de terminer mes études, pas parce que je ne le veux pas, mais parce que le contexte, le climat socio-professionnel n'autorise pas que nous puissions, en tout cas, nous rassurer que nous aurons un emploi. En tant qu'un juriste de formation, j'ai fait le droit 4 ans ici, j'ai une maîtrise en droit. Par la suite, je suis allé faire deux masters 1 et 2 en management des projets des organisations, parce que j'ai compris qu'en tant qu'un juriste, on n'a pas d'avenir dans ce pays. Pourquoi ?
Allez-y, pourquoi, effectivement ?
Pourquoi je le dis ? Je le dis tout simplement parce que rien qu'en 2010, nous étions 2600 comme effectifs en première année de droit, alors que l'État ne recrute que seulement 100 magistrats par an. Et dans les 100 magistrats, vous allez voir que lorsque les résultats vont tomber, on va vous dire que les étudiants n'ont pas le niveau, donc on recrute entre 80 et 78 étudiants comme magistrats. Du coup, cela pose la problématique de la compétence de nos enseignants et du système éducatif que l'État a mis en œuvre pour assurer l'avenir de ses étudiants.
En tout cas, vous êtes très soutenu, très applaudi ce matin dans cet amphithéâtre de l'Union africaine à Ouaga 1. Monsieur le ministre, à travers le commentaire, le témoignage de Marc, on voit bien qu'il y a un vrai problème entre la formation et la nécessité du marché de l'emploi, du marché du travail. Il y a un fossé.
À l'exception du fait que je n'aime pas voir un étudiant dire que ses anciens ne sont pas compétents, il a dit une vérité. Parce que je pense que celui qui a évalué n'évalue pas son évaluateur. Par contre, il a dit un certain nombre de vérités sur le fait qu'il y a une inadéquation entre ce que nous proposons en termes de formation à nos étudiants, à nos jeunes, et ce qui est les réalités du marché. Vous savez, aujourd'hui, de façon simple, on ne peut pas penser que c'est l'université qui a la solution pour tout le monde. On a fait le constat, regardez les ingénieurs au Burkina. Le Premier ministre Paul Kaba Tchéba a même le dit, on n'avait que 2 classes C dans tout le Burkina. Moins de 140 élèves. Vous voulez construire un pays comme ça.
Excusez-moi, une classe C.
C'est série mathématique.
D'accord,
donc,
la série C.
Oui. Il fallait changer la donne. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de donner cette possibilité-là, avec notamment les écoles... les classes supérieures qui ont été mises en place, il y a énormément de difficultés, mais on ne change pas l'université en 2-3 ans. Là, je suis d'accord avec vous. Par contre, là où je vais vous taquiner un peu, c'est que forcément, à un moment donné, il faut que vous acceptiez de prendre en charge. Quand je dis ça, on m'en veut un peu. J'ai été fonctionnaire 12 ans. Et puis j'ai dit, ce n'est pas ce que je veux. Je suis sorti, j'ai tenté ma vie d'une autre façon. Donc je crois que l'université, c'est la capacité du savoir qu'on met dans ta tête. J'ai quelqu'un qui dit, même si on coupe ta tête, on ne peut pas lever sans savoir. On peut enlever tout ce que tu veux d'autre, mais le savoir, on ne peut pas l'enlever. Mais tu l'as, lance-toi. On peut t'aider aujourd'hui, parce que c'est une possibilité
Il y a à peu près 6000 postes qui sont prévus chaque année. Il y a 800 000 étudiants qui se battent pour ces 6000 postes. C'est pas possible.
Oui, tous les ans, il y a quasiment un million de jeunes qui arrivent sur le marché du Burkina Faso. Achille Tapsoba, j'ai envie d'entendre votre analyse, et qui sera à mon avis d'autant plus pertinente que je rappelle aux auditeurs que vous avez été vous-même ministre de la formation professionnelle, de l'emploi et de la jeunesse de 2011 à 2013.
Oui, c'est exact. J'ai eu la chance de diriger le département de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi en 2 ans. Et j'ai constaté la même insuffisance que l'étudiant venait de constater, inadéquation, formation, emploi. Le drame, c'est l'échec de nos politiques en matière de formation qu'il faut mettre en exergue. Nos politiques ont échoué parce qu'on forme pour former et non pas former pour que le marché de l'emploi les emploie. Alors, pour organiser la formation, il faut d'abord savoir ce que le marché veut. Et en fonction de ce que le marché veut, on organise les formations en amont. Et non pas le contraire.
Oui, mais vous le saviez déjà, ça, lorsque vous étiez ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. C'était déjà la même problématique. Pourquoi est-ce si compliqué de régler ce problème?
C'est compliqué dans la mesure où il faut réagir à la fois sur deux phénomènes. Le phénomène du besoin immédiat de ceux qui sont en formation, ceux qui sont diplômés en emploi. Ouais. Et en même temps, réagir sur la formation elle-même pour que tout le monde n'aboutisse pas au même cul-de-sac. Mmh. C'est pour ça, à l'époque, nous avons organisé la réforme du système éducatif, malheureusement, qui n'a rien donné. Ça, je dois être honnête envers vous. Et nous avons également mis en place un programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et au niveau des jeunes, oui, nous avons visé les étudiants.
On ne va pas refaire la politique.
Non, c'est pour dire qu'il faut régler les deux problèmes à la fois.
C'est entendu. Autre thématique, la cherté de la vie. Bonjour Amédée.
Ok, bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre. Je pense que cette question nous intéresse plus dans la mesure où la plupart des étudiants que nous sommes de la société civile et autres, je pense qu'à un moment donné, l'État a tout compris en augmentant un certain nombre de denrées. C'est énormément, j'allais dire, de ce qui pourra être utile à l'étudiant burkinabé ou bien, à toute la population tout entière.
Donnez-nous quelques exemples.
Bon, je prends des exemples palpables. Lorsque vous prenez actuellement, le prix du carburant a été augmenté. La question de, le pain qui était à 125 francs est passé à 150. Nous utilisons tous les savons. Voilà, le savon Citec qui est passé, de 125 à 200 francs. Tous ces éléments, en tant que burkinabé, qu'est-ce que nous recevons pour pouvoir, compenser toutes ces augmentations?
Monsieur le ministre, comment justifier, parce qu'à
un moment donné, nous constatons que la plupart des Burkinabés ont tous un engin de déplacement. Et ces engins de déplacement...
La mobylette,
il faut mettre du carburant. Et les gens ont besoin de la nourriture également. Il faut manger pour pouvoir suivre les études universitaires. Et on augmente tout du jour au lendemain, sans toutefois penser à celui-là même qui ne pourra pas, en tout cas, s'exprimer, ne pourra pas revendiquer la question des grèves. Combien sont ceux qui sont allés en grève et dont les ententes ont été favorisées? Non, une grande partie de la population est marginalisée.
Oui.
Donc, raison pour laquelle nous pensons qu'à un moment donné, il faut demander à l'État de restituer les responsabilités à un moment donné, parce que nous sommes dans une lobotomisation.
On peut arrêter là?
Ce n'est pas aussi bien.
Bon, merci beaucoup. Alors, justement, Monsieur le Ministre, il y a eu beaucoup de choses dites dans le témoignage de ce jeune. Faites plus court que lui, s'il vous plaît. D'abord, comment vous justifiez l'augmentation du prix de l'essence, du prix du pain, du savon et d'autres produits de première nécessité?
Alors, sur la question du prix du carburant, je pense qu'on s'est beaucoup expliqué là-dessus. On peut être d'accord avec le gouvernement ou pas, mais pendant 2 ans, le prix a été maintenu à un niveau qui n'était pas celui du marché. Donc, résultat, on avait des entreprises qui étaient dans une situation de tension et qui étaient en train de perdre leur possibilité même d'assurer le ravitaillement de l'État. Après, vous savez, on peut être d'accord avec l'État. Et là où je dis qu'on marginalise, je suis pas d'accord, parce que il n'y a jamais eu autant d'expression de la volonté des populations. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Et donc, on réagit par rapport à ça. On a dit qu'il y a un ajustement qui va se faire de face tous les 3 mois. L'ajustement a commencé. Ça, c'est une vérité. Pourquoi nous nous sommes battus pour ne pas qu'il y ait des répercussions? Effectivement, si le prix augmente, on a eu un accord avec les transporteurs pour ne pas que le prix du transport augmente, parce que de fait ça va augmenter le prix des autres produits. Mais une vérité est là, c'est que le gouvernement ne peut pas certifier à 100% qu'il n'y a pas eu de répercussions. Moi, je ne fais pas la langue de bois. Oui. Vous êtes actuellement certainement un frère qui est transporteur. Les transporteurs sont capables de bloquer le pays parce qu'ils ne s'entendent pas en eux. Ils sont capables de faire de la spéculation parce qu'ils ne s'entendent pas en eux. Il faut que chacun d'entre nous regarde la vérité en face et qu'on se dise, on est également acteur de ce qui arrive.
Pour ce qui est de ma part, je suis d'accord avec vous, il y a aujourd'hui une certaine hausse qui ne se justifie pas. Le ministre en charge du commerce, Haruna Kabore, lance ses équipes sur le marché. C'est un nouveau processus sur lequel, effectivement, on commence à attraper un certain nombre de personnes et on essaie de réguler les prix. Mais je suis d'accord avec vous, certains produits, il faut qu'on arrive à les contenir, sinon la répercussion et l'impact est trop important pour les populations.
Amédée, vous aurez l'occasion de nous appeler si vous voyez que les prix continuent à flamber ou si la promesse du ministre est respectée. Dans quelques mois, vous appelez la Libre Antenne et vous pourrez vous exprimer sur RFI. D'accord ? Passez le micro à votre voisin, Maxime, bonjour.
Bonjour, Juan.
26 ans. Je vois sur ma petite fiche, porte-parole du syndicat Fédération Nationale des Élèves des Étudiants Burkinabés.
Exact.
Vous n'êtes soutenu par personne ici ? Allez-y, on vous écoute.
Ok, moi je voulais intervenir. En ce qui concerne le retard académique, tous les étudiants ici sont unanimes qu'après avoir obtenu leur bac, ils vont taper d'abord un an à la maison d'abord.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place à la faculté ? Pourquoi ?
Non, mais je vous pose simplement parce que le politique n'a pas pris la responsabilité sur lui avant d'appliquer le système LMD, de réunir toutes les conditions qu'il faut. Mmh. Du coup, le LMD, ils l'ont appliqué à la va-vite. Et du fait qu'ils l'ont appliqué à la va-vite, eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans un engrenage qu'ils ne maîtrisent pas. L'administrateur lui-même ne maîtrise pas ce que c'est le LMD.
Je vous écoute.
Le politique lui-même ne maîtrise pas ce que c'est le LMD. Et les professeurs, quant à eux, essayent tant bien que mal de pouvoir appliquer le système LMD. Comment est-ce que dans une université où on veut appliquer un système où il n'y a pas les conditions, on nous dit le LMD c'est 40% pour le professeur et 60% pour l'étudiant. Les 60%, l'État veut qu'on aille chercher les 60% là, comment ?
Alors, il vous répond. Monsieur le ministre, allez-y.
Alors, je crois que on va restituer la mise en œuvre du LMD. Nous gérons une situation qui est une situation où, premier effet, effectivement, il y a du retard. C'est 2 semestres. Je pense qu'il y a un paradigme aussi qui doit changer dans la tête. C'est que il y a 2 semestres pour le LMD. Il faut qu'on se le mette dans la tête et que ce n'est pas une année comme d'habitude. Deuxièmement, lorsque vous dites que les politiques ne savent pas de quoi il s'agit, bon, moi, je sais que Waro, qui est ministre avec nous, il enseigne ici, il sait c'est quoi le LMD. Voilà. Bon, voilà. Bon.
Alors, visiblement, les élèves ne sont pas convaincus. Le LMD...
Deuxième chose.
Je dis aux auditeurs, le LMD, pour ceux qui sont loin de l'université, licence, master, doctorat. Voilà. Très, très rapidement, parce que c'est un vrai problème ici, mais on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais qu'Achille Tapsobaré...
Je voulais juste préciser que pour rester dans le propos du responsable syndical, il y a une vérité, c'est celle de chercher les 60% et de réduire les délais. Depuis 2 ans, vous avez remarqué, si vous êtes de bonne foi, que les rentrées pour les étudiants sont en train de se réduire. Nous espérons arriver à une situation qui change. Voilà.
Alors,
deuxième chose, c'est la connectivité, pour que vous allez chercher ces éléments-là. Et effectivement, nous travaillons à ce que cette connectivité-là, à travers donc la bibliothèque virtuelle et les universités virtuelles, vous permettre d'avancer sur ces questions.
Oui, vous aviez promis au moment de la campagne électorale des ordinateurs pour tous les étudiants.
Oui, les ordinateurs pour tous les étudiants, c'est un projet qui est en cours. Ah. Nous avons 50 000 tablettes que la Corée nous donne et nous avons ensuite un process, 40% qui va être au service de l'étudiant lorsqu'il est en présentiel, 60% lorsqu'il est dans le virtuel. Alors, la négociation aujourd'hui, c'est avec Intel et Microsoft pour la réduction des logiciels, mais on pense que ça va se faire.
Bon, vous y croyez.
L'éducation nationale, n'est pas une science expérimentale.
Allez-y, monsieur Tapsoba.
Et lorsque dans l'éducation, un système ne marche pas, il faut l'arrêter et passer à autre chose.
Voilà qui est dit. C'était le coup de gueule d'Achille Tapsoba pour conclure cette émission. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci également à monsieur le ministre Rémi Fulgenzanginou. Je sais que d'autres étudiants souhaitaient prendre la parole. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. Demain, nous serons de nouveau ici dans cet amphithéâtre avec un invité exceptionnel. Le rappeur Smarty sera le rédacteur en chef de l'émission et c'est donc lui qui a choisi les sujets qui seront débattus demain matin sur l'antenne de RFI. Avant de nous quitter, et merci de les accueillir, je voudrais remercier toute l'équipe qui m'entoure. Jessica Tailleb, on peut les applaudir. Arès Siradag, Boris Vichit.